Alors, donc le texte, voilà. Donc le texte dans le Zohar dit, Vatikar Mipirio, elle a pris donc du fruit de cet arbre défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ataninam. Alors il y a un enseignement qui dit, c'est quoi ce fruit? Sarta Anavim, c'était en vérité une vigne, elle a pris des raisins, Veyahavatle, et elle lui a donné, c'est-à-dire, elle lui a donné sous quelle forme? Regardez ce qu'il dit le Matok. Chava sarta anavim, et donc puisqu'elle a pressé les grains de raisin, venatna kos yahil le adam, et elle a donné, elle a pris le raisin, mais elle a transformé en vin, elle a mis le vin dans un verre, et elle a tendu le verre à Adam. Okay, on continue. Jacques, on continue. D'abord, il faut lire d'abord. On va lire tout le paragraphe et après on explique. Ugrimu mota lechol alma. Et par ce verre de vin, évidemment, tout est codé, c'est pas à prendre à la lettre. Un verre de vin, il tue pas le monde. On va comprendre. Mais en tout cas, pour l'instant, au niveau du texte, et à cause de ce verre de vin, elle a amené la mort dans le monde entier. C'est-à-dire, la mort, jusqu'à aujourd'hui, un homme naît et il meurt. Sans compter toutes les guerres et toutes les catastrophes. Va allier Dézé, à cause de ce verre de vin qu'elle a donné à Adam, Garmou, Mita, les Cholaolam, ensemble, ils ont amené la mort dans le monde entier. Maintenant, regarde ce qu'il dit le Hari HaKadosh. Le Hari HaKadosh dit, Mefaresh, chez Milat Anavim, en hébreu, le mot Anavim qui veut dire les raisins, Gematria Ekev, c'est la même valeur numérique que le mot le talon. Anavim à la valeur numérique du mot talon. Rotselomar, qu'est-ce qui se cache? Premier décodage, Verotselomar, on doit comprendre de là, chez Sarta, Dinim, chez Beikve, Léa. Oh là, là, il va falloir s'arrêter et expliquer qu'en vérité, le talon, qui sont donc en vérité la notion cachée dans les raisins, font allusion au talon de Léa, ce qu'on appelle les Dinim, les rigueurs. Comme on le sait, le talon représente la rigueur. Et là, on parle des talons de Léa. On va comprendre dans quelques instants, mais il faut terminer la phrase. Venatnalo, elle lui a donné donc toutes ses rigueurs. Veshatakos atarela, et il a bu donc ce verre rempli de forces négatives. Chelekachitsonim, dans lesquelles se trouvaient toutes les forces extérieures, toutes les forces, on pourrait dire, toutes les clipotes, toutes les écorces, Anikraim Sitra Demota, qui porte le nom, le côté de la mort. Ubeze Garma Yenika Gdola Lea Klipot. Et grâce à ça, malheureusement, elle a permis à toutes les clipotes de ce monde de se renforcer. De se nourrir et de se renforcer. Valiedeze Nigram Amot Beolam, et de là est venue la mort. On continue un petit peu, et après on reviendra. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter en plein milieu, on est en pleine explication. Dea, parce que il a nada, cet arbre-là qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est sadat chez Usada Malchut, comme on le sait, on l'a déjà vu souvent ensemble, qu'en vérité cet arbre-là fait allusion à la sphira de la Malchut. Becharie Mota. C'est la seule sphira sur laquelle il y a une emprise de la mort, puisque, dit dans un langage ultra moderne, c'est tout le pouvoir, toute la politique est corrompue. La malchoute, c'est la politique. Elle est entièrement corrompue. Boyesh Achizat Aklipot, donc toutes les forces contraires, essayent de rentrer dans le monde politique, dans le monde des gouvernants. Shehem Sitra Demota, qui eux-mêmes représente le monde de la mort, puisque les dirigeants ne font qu'amener des catastrophes sur le monde. Ou Mefaresh, Veu, Ilana de Shalta Belailaya. Cet arbre-là, c'est l'arbre de la nuit, c'est l'arbre de l'obscurité. Ainu, c'est-à-dire, Amalchut Shuletet Belaila. Le pouvoir est entre les mains de la nuit. Ça veut dire que les dirigeants font tout pour obscurcir le monde, pour voiler ce qu'ils sont, pour voiler ce qu'ils font, et créent des vitrines qui nous séduisent, mais qui nous empêchent de voir ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Et donc ils sont comparés à la nuit. Vekadi Ishalta, et lorsque la malroute corrompue domine le monde, Kol bene alma ta'ame ta'ama demota. Le monde entier goûte la mort. Exactement ce qui se passe en ce moment. Avec leur invention du corona, avec leurs trucs et leurs machins, etc. pour tuer les gens. Et là, à nous, bene me nuta, mais ceux qui gardent.
Attends, qui a shnia.
Qui a shena i echa meshishim bemita, parce qu'ils endorment les peuples, ils endorment le monde, et comme on le sait.
C'est incroyable.
C'est tout ce qu'on vit aujourd'hui.
C'est fou.
Mais oui, comme je dis toujours, Jackie, moi, tout ce que je dis, je ne le tiens pas de toutes les bêtises qui circulent sur les réseaux sociaux. Tout ce que je dis, je le tiens de la Torah. C'est la Torah qui le dit. Et donc.
Et le Zohar surtout.
Ce
passage, encore, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est déjà fabuleux. Mais on ajoute le fabuleux au fabuleux.
Donc, ils endorment les peuples. Et le sommeil est considéré comme 1/60 de la mort. Donc il nous tue à petit feu. Et là.
C'est ce qui se passe. Waouh. Mais Shishim Abita, c'est pas possible.
Mais. Inul Benemem Nuta, tous ceux qui garderont leur confiance totale en Hachem, c'est-à-dire. Et là, Tzadikim, Bene Amalchut, Anikret Emuna. Il y a la Malchut.
Mais
bien sûr. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Zohar explique ? Il y a la malchoute qui est entre les mains des clipotes et la malchoute qui est entre les mains des tzadikim. Quelle est la différence ? La malchoute qui est entre les mains des clipotes, c'est le culte de l'ego, et moi, et moi, et moi. Et la malchoute qui est entre les mains des tzadikim, c'est dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde. La malchoute d'Hachem. Et ça, c'est par le biais de la Emouna, c'est-à-dire de jamais se désespérer. Savoir que toute l'obscurité, toute la nuit que l'on traverse, c'est pour arriver finalement au dévoilement de la malchoute d'Hachem. Mais kadme ve'yavile nafshu bekpikdona, les tzadikim donnent leur âme à Hachem. Ça veut dire que, vous voyez ce qu'il dit, en makdimim ou moslim la nafsham bepikadon besod beyadecha afkidruchi. C'est-à-dire que le tzadik authentique donne son âme à Hachem, ça veut dire il est prêt à affronter tous les dangers et dit à Hachem, c'est toi qui décideras ce que tu veux faire de mon âme, mais moi je me donne entièrement à toi, parce que si un tzadik ne combat pas le mal, c'est pas un tzadik, c'est un curé, rien de plus. Donc il doit véritablement combattre le mal, ça veut dire avoir le courage de se mettre en danger et de confier son âme à Hachem.
Dis-moi, Charlie, dans cette configuration-là, l'exemple type, bien que il a raté, mais il a payé pour ça, c'est Rabbi Akiva. On voit ici Rabbi Akiva.
Mais évidemment.
Bravo.
Rabbi Akiva, bien sûr, qui était à la tête des armées de Bar Korba contre les Romains.
C'est lui qui reçoit, qui est chouette ici. Hein,
absolument. Au Begin des Iou, Bepigdona, lui ou bien les Kohanim qui se sont battus contre les Grecs, ou bien Mordechai contre Aman, etc. C'est-à-dire que Moshe contre Pharaon, Avram contre les quatre rois qui sont venus, qui ont. Voilà, ou Avram contre les quatre rois qui ont capturé Lot. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on voit dans toute la Torah ? Qu'est-ce qu'on voit dans toute la Torah ? Le vrai juste, c'est pas celui qui s'enferme dans une synagogue. Le vrai juste, c'est celui qui sort et qui se bat contre le mal. C'est ça le juste. Malheureusement, l'exil a complètement falsifié notre Torah et nous fait croire que celui qui est toute la journée en train d'étudier, c'est lui injuste. Non ! Le juste, c'est celui qui sort contre le mal.
Tu comprends alors pourquoi Rabbi Shimon dit que c'est uniquement à la fin de l'histoire, par le mérite de l'étude de ces textes, la Gula viendra. Tu comprends ? Là est le secret. Dans ce qu'on lit là, c'est le secret de ce qu'il a dit.
Absolument. Que le Zohar se dévoilera juste avant la délivrance. Et c'est lui qui nous donnera les conseils pour se battre.
Ceux qui sont de vrais tzadikim, quel est leur rôle véritable ? Pas de rester effectivement dans une pièce à donner des brachot et à sortir et s'engager dans le monde.
Et pourquoi le Zohar dit que le Mashiach viendra pour faire teshuvah aux tzadikim ? Il leur fera comprendre que arrêtez de rester enfermés dans vos illusions, dans vos fantasmes. Sortez et battez-vous. C'est ça la teshuva qu'il va faire au tzadikim. Au begin de Yube Pigdona, Et puisque le juste authentique, il donne son âme à Hachem, c'est-à-dire il lui dit, c'est toi qui décideras si tu veux que je vive ou non, mais moi je suis prêt à me sacrifier. Itadru nafshan la'atreyu. Lachen baboker, chozrot anafshot le mekomam. Ça veut dire quoi? C'est quoi le décodage? Quand vient le matin, donc pendant toute la nuit, je confie mon âme à Hachem, ça veut dire je me bats contre le mal, et je dis à Hachem, c'est toi qui décideras si tu veux que je vive ou non. Mais quand viendra le matin, quand viendra la délivrance, toutes les âmes des justes qui ont été prises pendant la nuit reviendront. Ça veut dire qu'ils vivront véritablement la délivrance. Ve'alda, c'est pour ça qu'il est dit, ve'emunatecha balelot ketiv, qu'il faut pendant tout le temps de la nuit, pendant tout le temps que le monde est entre les mains de la corruption et du culte de l'ego de tous ces dirigeants qui sont en vérité de véritables nazis, à ce moment-là, la seule possibilité pour tenir, c'est la Emouna, de savoir que ce tunnel nous amènera à une très très grande lumière. Alors maintenant, Jackie, je voudrais revenir sur un point très très important.
Mais une Emouna combative.
Une Emouna combative. Mais Jackie, la preuve, dans notre paracha cette semaine, pendant que Yehoshua était en train de se battre clairement, physiquement contre Amalek, qu'est-ce qu'il est dit? Les mains de Moshe était tendu dans la Emouna. Pourquoi les mains de Moshe? Pour nous faire comprendre que même la Emouna de Moshe était une Emouna active qui était représentée par le combat de Yehoshua. C'est-à-dire que son Emouna accompagnait ses mains, ça veut dire l'action, dans le combat de Yehoshua contre Amalek.
Je dirais même que ses mains, comment dirais-je, étaient supportées par sa Emouna. Ses mains étaient fondées dans sa Emouna.
Exactement.
C'est-à-dire qu'elle émanait de sa Emouna. Tout ça pour dire, effectivement, ce n'était pas passé, c'était totalement actif.
Voilà. Absolument. Alors maintenant, Jacques, je voudrais revenir sur un point qu'on a lu du Hari HaKadosh, qui est fondamental, parce que ça, c'est en vérité le secret le plus profond de tout le texte qu'on a vu.
Alors, juste une petite remarque, Charlie, par rapport à ce que le Zohar nous révèle. Pour lui, les choses sont très claires. Lorsqu'il les voit, il dit une seule et unique chose. En ce qui concerne ce fameux fruit de la faute, il parle du raisin, il parle de n'est-ce pas, transformé en coupe de vin.
Qui a Gematria et Kev, qui a pour valeur numérique le talon.
Comment se fit-il que ces sages qui avaient connaissance de ce texte aient pu aller à l'encontre de ce que nous révèle ici le Zohar, à savoir que c'était le fruit de la vigne? Et on comprend cette sagesse.
Non, non. Dans la Gemara, on rapporte aussi que c'était une vigne, il y en a qui disent que c'était du blé, etc. Mais en vérité, les commentaires expliquent. Comme le Maharal de Prague l'a révélé, dans tout ce qui est Agada, il n'y a pas de machloket, ce sont des facettes différentes. Il y avait un aspect blé, et qu'il faut comprendre bien sûr le pain, pourquoi, un aspect vigne, etc. C'est ça le sort du Pardès, il y a le Pshat, il y a le Remez, il y a le Drash, et il y a le sort, il y a quatre niveaux de compréhension dans la Torah. Et donc il y en a qui expliquent, qui disent que ce fruit défendu était du blé, il y en a qui disent que c'était de la vigne, mais c'est à des niveaux différents. Mais tout se complète.
C'est brinant, c'est toujours
voilà. En tout cas, le Zohar, puisque le Zohar, bien sûr, parle du sod, il dit que c'était voilà. Du vin. Or, écoutez-moi bien, le yaïn, comme on le sait, est la boisson qui fait allusion à la bina. La bina, c'est Léa.
Le secret, le sod.
Les secrets.
Sod.
Puisque... Quelle est la définition de la bina? Le'avin davar, mitor davar. Comprendre ce qui est caché à l'intérieur d'une chose. Ça, c'est le sod de la bina. Donc, les secrets de la Torah. Comme c'est marqué au tout début du Zohar, que tout le Zohar, c'est la lumière de la bina. Donc, les secrets qui sont cachés derrière l'apparence. Maintenant, n'oublions pas que Léa est le sod de la bina aussi. Rachel était la malchoute. Alma Deit Kassia, le monde caché, le monde des secrets. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est une chose absolument folle. Comment, puisque Léa...
Mais c'est la question que j'ai. Ah. Comment se fait-il que, apparemment, elle donne à Adam, j'allais dire, la boisson de la Géoula?
Alors justement, c'est ce qu'on... C'est ce que je vais expliquer, parce que là se cache l'un des plus grands secrets de la Torah. Comment se fait-il que, puisque lui dit que le raisin représente les talons de Léa, qui sont un endroit rempli de rigueur, rempli de din. Et lorsque Adam a bu ce vin, ça veut dire le décryptage, il a reçu la lumière de la Bina, il a reçu surtout les rigueurs de la Bina. Et c'est comme ça que toutes les forces du mal se sont renforcées, se sont accaparées la Malchut, ça veut dire la direction du monde, et ont rejeté Hachem dans les mondes supérieurs. Fous-nous la paix, le monde est à nous, c'est nous qui dirigeons le monde, et toi reste en haut, reste dans la synagogue ou reste dans l'église. Ce qui est exactement la même chose. Elle ressemble à Malchut. La femme représente la Malchut.
Donc elle joue son rôle ici. Elle joue son rôle.
Justement. Donc, alors, mais il faut revenir sur la question.
Attends, ce qu'on pourrait dire.
Non, mais Jacques, il faut revenir sur la question fondamentale. On a commencé, mais on n'a pas expliqué pourquoi.
En versant ce vin à Adam, elle lui demandait de jouer son rôle à lui, c'est-à-dire d'être ma tante. C'est vous rôle.
Non. Non, puisque justement, elle lui a donné les rigueurs. Non, Jacques, regarde ce que dit le Ré à Kadosh. Elle lui a donné les rigueurs de la Bina. Et ça, laissez-moi l'expliquer. C'est quoi les rigueurs de la Bina? Donc, pour mieux comprendre, reposons les questions. Puisque la Bina représente les secrets de la Torah, puisque le vin représente lui aussi les secrets de la Torah, puisque, comme le dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ce sont les secrets de la Torah, lorsqu'un jour ils seront enfin compris et expliqués, de la bonne manière, que ce sont les secrets de la Torah qui amèneront la délivrance finale. Comme dit le Rashbi, que seul le Mashiach arrivera véritablement à comprendre véritablement les secrets de la Torah et s'en servira pour amener la lumière de la délivrance. Donc, et tout ça, c'est, comme on le sait, ça correspond à la tribu, à la Sphira de la Bina. Qu'est-ce que c'est les talons de la Bina qui représentent les rigueurs qui ont fait tomber le monde? Alors, première explication, Jackie. Maintenant, vous comprenez pourquoi nos maîtres n'arrêtent pas de dire, y compris dans le Zohar, qu'il faut faire très, très, très attention de ne pas révéler les secrets de la Torah à des gens qui ne sont pas méritants. Pourquoi? Parce que si tu révèles les secrets de la Torah à des gens qui ne sont pas méritants, à ce moment-là, ils font tomber non seulement les secrets, mais ils font tomber le monde. Et on pourrait presque dire que c'est une sorte, vous savez, il y a toute une... Comment dire, il y a toute une théorie. Mais d'une certaine manière, on peut le comprendre. Vous savez, beaucoup de gens antisémites, etc., disent la Kabbale, c'est de la sorcellerie. La Kabbale, c'est de la sorcellerie. Mais pourquoi? Parce que ce sont eux-mêmes qui l'ont transformée en sorcellerie, dans la mesure où ce sont des animaux. Et encore, c'est une insulte pour les animaux. Ce sont pires que des animaux. Ils n'ont rien compris au secret de la Torah. Ils les ont complètement falsifiés, ils les ont complètement déviés, et ils en ont fait de la sorcellerie. C'est exactement ce que nous révèle ici le Zohar. Lorsque quelqu'un de non méritant s'amuse à essayer de comprendre les secrets de la Torah, il les falsifie complètement, il les transforme en formes négatives qui vont donner un pouvoir à des monstres qui peuvent s'accaparer la direction du monde. Jackie, n'oubliez pas ce que la Torah nous révèle, que tous les conseillers de Pharaon étaient des sorciers. C'est-à-dire que toute la puissance de Pharaon était fondée sur la sorcellerie. Et je vous garantis que jusqu'à aujourd'hui, on sait aujourd'hui clairement que Hitler lui aussi était entouré de sorciers.
Alors bien sûr, il avait une espèce de mage. Je ne sais pas comment on appelle ça. Bien sûr.
Oui, il avait des gens autour de lui qui l'inspiraient, qui le conseillaient selon des normes de sorcellerie. Et tous les grands dictateurs ont toujours été entourés de forces obscures. Et ces forces obscures...
Charlie, je vais juste te dire une chose, ce qui est extrêmement important. C'est tellement vrai ce que tu dis là, que quel a été le point culminant? Le point culminant où tout s'est renversé, où à la mafour de la Deuxième Guerre mondiale, c'était la bataille d'El Alamein. Au moment où les forces nazies allaient envahir Israël, détruire le Yishuv, que là se sont levés les kabbalistes, tous les kabbalistes d'Israël se sont réunis, ont prié et ont agi selon les règles pour renverser ce mazal. C'est vraiment ce qu'on voit là, ce que tu dis là.
Absolument. Ça veut dire.
Ça a été le combat de Moshe contre les Rartouni. Purim. C'est exactement ce qui s'est passé.
Exactement. Le combat de Moshe contre tous les sorciers de Pharaon.
Je pense à ça. Tu viens de me révéler ça. C'est exactement ce qui s'est passé.
Et je peux vous garantir que jusqu'à aujourd'hui, 99,9% des dirigeants, même dans le monde libéral et démocratique, sont entourés de forces obscures qui les conseillent et qui les renforcent.
Oh, ce que l'on sait de manière certaine, et lui-même l'a dit, c'est Mitterrand, qui consultait constamment une bonne femme qui s'appelait Tesser, je ne sais plus exactement, qui était connue comme étant une femme qui lisait dans les astres.
Mais absolument, Jackie. Absolument. Il n'y a pas un dirigeant sur Terre qui ne fait pas appel à la sorcellerie. Bien sûr, ce n'est pas la sorcellerie d'il y a 3000 ans, c'est une sorcellerie plus moderne, mais ça reste malgré tout des forces obscures. Maintenant, qu'est-ce que nous révèle le Zohar ? Tous ces sorciers-là, toutes ces forces obscures, se nourrissent de la falsification des secrets authentiques de notre Torah. Ça veut dire qu'en vérité, ils vont puiser dans notre Torah. Jackie, je peux vous donner un exemple beaucoup, beaucoup plus simple.
Est-ce qu'on pourrait dire, cette Rava-là qu'on voit ici, là, Charlie, est-ce que ce serait encore Lilith, cette fameuse première femme qu'a eu Adam ?
Oui, d'une certaine manière, absolument. Celle qui a fait tomber Adam, c'était Lilith, en vérité, qui s'est incarnée dans Rava, une force obscure. Et toute la puissance des dirigeants du monde entier tient sur ces forces obscures, qui sont des falsifications des secrets authentiques de la Torah. Ça veut dire que dans toutes les générations, et surtout dans l'Église catholique, comme on le sait, tous les grands de l'Église catholique étudiaient ce que eux appellent la Kabbale. Ils la falsifiaient complètement et extrayaient de cette Torah authentique, de ces secrets qui amèneront la délivrance, ils extrayaient non le fruit, mais la clipa, l'écorce qui se transformait en sorcellerie, et qui finalement donnait du pouvoir à eux et à tous les dirigeants du monde. Et c'est vrai jusqu'à aujourd'hui. Il est connu que par exemple dans les hautes sphères, par exemple de la franc-maçonnerie, ils étudient entre eux la Kabbale. Ça veut dire quoi ? Ils étudient.
Mais
j'en ai eu la preuve, je le sais. C'est-à-dire, ils sont très instruits dans la Kabbale, mais attention, de quelle Kabbale il s'agit ? Pas du Zohar, de la Torah, de la Kabbale non juive. Ça veut dire de la falsification des secrets de la Torah. Et eux croient qu'ils sont en train d'étudier les secrets de la Torah, mais nous qui étudions les vrais secrets de la Torah, quand on les entend, on sait très bien que quoi ? Que ce sont des falsifications, mais inimaginables, des vrais secrets de la Torah. Mais cette falsification se transforme en rigueur, qui permettent aux dirigeants d'avoir un pouvoir, on pourrait dire presque sorcier, surnaturel, qui leur permet de diriger le monde et d'une certaine manière de le détruire. C'est ça le fait qu'ils amènent la mort dans le monde. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on comprend de là, cher ami ? C'est que toute force positive a toujours une possibilité, malheureusement, d'être récupérée par le mal, d'être transformée en mal. Et plus cette force positive est puissante, et plus elle va amener des catastrophes quand elle est falsifiée. Et on comprend maintenant, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai dit que le Zohar vient de la Bina, et que le Zohar est la lumière de la délivrance finale, donc c'est la plus grande lumière qui existe, automatiquement lorsque cette lumière elle est falsifiée par tous les sorciers de ce monde, elle devient la puissance de mort la plus terrible de ce monde. Vous comprenez ? Et donc, on a une preuve inimaginable de ce qu'il explique d'une manière complètement codée ici, le Hari HaKadosh, que tous les malheurs de ce monde viennent au départ de la falsification des secrets authentiques de notre Torah, qui ont été récupérés par le christianisme, par la franc-maçonnerie et par quantité d'autres choses. Quand je parle des francs-maçons, je parle bien sûr des castes les plus élevées et qui entre eux étudient ce qu'eux appellent la Kabbale, et qui donne des forces inimaginables après à tous les dictateurs de ce monde.
Mais ce qui est très difficile à comprendre, la manière dont s'exprime le Zohar ici, je te demandais comment toi tu comprends, c'est qu'a priori, quand le Zohar nous dit qu'elle lui a donné, ce vin qui correspondrait au niveau du Ekev de Léa, a priori, dans dans cette description-là, il n'y a rien de négatif. Au contraire.
Mais si.
On pourrait dire que.
Mais si, pardon, Jacqueline, parce que justement.
On pourrait comprendre qu'elle lui a donné, comment dirais-je, le EKF de Léa, c'est-à-dire le niveau de la malroute de Léa. Et ça pourrait être tout à fait la malroute de.
Oui, mais avec tout ce qu'on sait, qu'il devait attendre de rentrer dans le Shabbat pour se purifier, et qu'il a mangé ce fruit avant Shabbat, et tout ça. Bon, ça évidemment, et le Zohar, c'est comme un puzzle, il faut se rappeler tous les textes. S'il avait mangé de ce fruit-là à la fin de Shabbat, il aurait eu toute la kdoucha, toute la sainteté du Shabbat, qui lui aurait permis justement de faire le tikkun, de faire la réparation de ces écorces qui sont justement dans les secrets de la Torah. Mais comme il s'est précipité pour manger de ce fruit avant de se sanctifier, automatiquement tout s'est transformé en sorcellerie. Et de là, encore une fois, maintenant vous comprenez pourquoi nos maîtres insistent lorsqu'ils disent qu'il est absolument interdit d'enseigner les secrets de la Torah à quelqu'un qui n'est pas méritant. Ou alors, de les transformer avec un langage tel que finalement, tout est voilé. Vous comprenez?
Alors, je te poserai la question à toi. Est-ce qu'il y a souvent un reproche que l'on te fait? Est-ce que tu as le droit d'enseigner ce que tu enseignes? Donc, à des gens que tu ne connais absolument pas, qui sont derrière des marchés, et tu ne sais pas du tout à qui tu enseignes des choses.
Mais parce que moi, je n'enseigne pas le Zohar tel que le Zohar est. Moi, je le transforme dans un langage ultra moderne et ultra, on pourrait dire, terre à terre, qui fait que l'habit cache véritablement la véritable lumière. Je ne ferai jamais un cours de Zohar, on pourrait dire tel quel, sur Internet. Ça, je le fais qu'avec des gens en privé. Mais si je vais transmettre des secrets du Zohar par Internet, je crée, et c'est ça ce que j'arrive à faire, je crée un habit qui transmet la lumière. Mais transmet la lumière d'une manière telle que personne ne peut la falsifier parce que cette lumière est dite dans un langage ultra moderne et ultra terre à terre. Donc on ne peut pas le falsifier. Ce qu'on peut falsifier, ce qu'ont fait tous les grands prêtres et toutes les grandes éminences chrétiennes, etc., qui ont falsifié parce que eux connaissaient l'hébreu et étudiaient la Kabbale, là, ce que eux appellent la Kabbale plutôt le Zohar. Eux l'ont falsifié. Pourquoi? Parce que eux ont atteint directement les secrets tels qu'ils sont écrits dans ces livres-là, sans le moindre habit qui voile la lumière et qui protège surtout la lumière. Mais nous, quand on enseigne, on protège cette lumière parce qu'on lui met un habit qui est tel que personne ne peut arriver à cette lumière elle-même. Il ne la reçoit qu'à travers l'habit. Vous comprenez?
Ce phénomène de l'habit du Levouche, cette manière dont, rappelle-toi, comme les choses, la création, comme les choses descendent au fur et à mesure, mais chaque fois qu'elles descendent, c'est pour devenir le Levouche de force plus intérieure, si tu veux.
Absolument.
C'est exactement ça.
Alors maintenant, Jacques, quel doit être le tikkun alors? Ben, le tikkun, justement, c'est, entre autres, je vais prendre un exemple parmi des milliers d'autres, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est ce que le Mashiach a révélé au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov demande au Mashiach, « Mais quand viendras-tu ? » Et il lui répond, « Sheyafutsu ma'inotecha chutsa. » Lorsque les sources se dévoileront dans le monde de l'extériorité. « Sheyafutsu ma'inotecha chutsa. » Maintenant, regardez la chassidoute elle-même, qui a été fondée à partir du Baal Shem Tov. Toute la Chassidoute contient toutes les lumières les plus secrètes, les plus intérieures, les plus le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim de la Torah du Sod. Mais pourtant, le langage de la Chassidoute voile complètement ces secrets-là, parce que c'est un langage, on pourrait dire, beaucoup plus, bon, extrêmement élevé, mais beaucoup plus terre-à-terre par rapport au langage des vrais secrets de la Torah. C'est ça la notion de Chutsa. Il faut que tu dévoiles les sources dans le monde de l'extériorité, mais avec l'habit de l'extériorité, de manière à ce que ces sources ne soient pas falsifiées comme elles ont été falsifiées jusqu'à aujourd'hui par tous les sorciers du monde, qui sont à la solde des grands dirigeants. Comprenez? Donc, ça veut dire quoi? Maintenant, vous comprenez une autre chose extraordinaire qui explique le Zohar. Pourquoi, tout de suite après la faute, Hachem a fait des habits à Adam et Ève. Il leur a mis des habits. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Justement, c'est ce qu'explique le Ari Akadosh, c'est à pleurer tellement c'est fort. Ils ont commencé à vouloir dévoiler les secrets. Et Hachem est venu, leur a dit, mais vous êtes complètement fous. Le monde n'est pas encore au niveau de pouvoir recevoir ces secrets. C'est les clipotes qui vont recevoir cette lumière-là. Habillez-vous, cachez les secrets. Et maintenant, vous comprenez un autre texte. Pourquoi Hachem a mis des guerriers pour protéger le chemin qui va jusqu'au Etz Hachaim.
Les fameux chérubins, les deux chérubins.
Voilà, avec des épées pour empêcher les gens d'arriver au Etz Hachaim. Parce que c'est quoi le Etz Hachaim? Dit le Zohar. C'est l'intériorité du Etz Hadaat.
C'est le secret de connaître chaque coup de chiffre.
Voilà. C'est l'intériorité du Etz Hadaat. Et donc ici, le Ari HaKadosh révèle quelque chose de fou. Que toute la faute de Adam, ça a été de transmettre des secrets à des gens qui ne sont pas au niveau, à des forces qui ne sont pas au niveau, et ça devient de la sorcellerie qui permet aux dirigeants de dominer le monde, de le plonger dans la nuit, dans l'obscurité, et de faire tomber tous les peuples dans le sommeil, qui est un 1/60 de la mort.
Alors ce qui est encore difficile à comprendre, Charlie, malgré tout, c'est le fait que Hava n'a pas donné ce breuvage à n'importe qui. Elle a donné à Adam, qui était lui directement l'œuvre d'Hachem lui-même. Donc un être qui, a priori, était parfaitement apte, le plus apte.
Non, parce que c'était avant Shabbat. C'était avant Shabbat, on l'a déjà expliqué. Il n'était pas encore parfait.
Oui. Alors ça renforce d'ailleurs la force de ce que l'on dit, c'est que ça peut être Adam, créé par les mains d'Hachem lui-même, s'il ne passe pas par le biais du Shabbat, c'est-à-dire la doucha, c'est-à-dire la séparation, cette notion de doucha, de séparation, de prendre de la distance, d'éviter la confusion.
Mais mieux que ça encore, mieux que ça, le Shabbat est le septième jour par rapport à la Sphira de Malchut, la Malchut d'Hachem. Ça veut dire qu'ils se sont précipités de dévoiler les secrets avant que se dévoile en eux la Malchut d'Hachem. Donc au lieu de dévoiler grâce aux secrets, s'ils avaient attendu de dévoiler les secrets après Shabbat, après qu'ils portent en eux la Malchut d'Hachem, à ce moment-là... Voilà. Mais si tu dévoiles les secrets avant que tu portes en toi la Malchut d'Hachem, ces secrets vont tomber entre les mains des clipotes qui vont transformer ces secrets en sorcellerie pour donner la puissance aux dirigeants de ce monde. Voilà le grand secret que nous révèle ici le Ari HaKadosh. Ça veut dire que la force qui est censée faire la réparation du monde est utilisée par le mal pour détruire le monde. Et c'est exactement ce que nous disent nos maîtres. Là où il y a un très grand bien, il y a un très grand mal. Là où il y a une très grande lumière, il y a une très grande obscurité. C'est ce que disent nos maîtres. La Torah peut être soit une substance de vie, soit, quand elle est entre les mains des méchants, une substance de mort. Absolument. C'est absolument incroyable.
D'où tu comprends aussi par ce biais-là, d'autant plus l'importance phénoménale du Shabbat, quoi. Que c'est tout repose sur le Shabbat, quoi.
Le Shabbat, c'est le dévoilement de la royauté d'Hachem. Et donc, si quelqu'un, prenons même le cas par exemple d'un juif qui n'observe pas Shabbat mais qui étudie les secrets de la Torah, admettons ça l'intéresse d'étudier les secrets de la Torah, il va devenir l'un des hommes les plus corrompus, les plus meurtriers de la terre. Ne t'approche pas des secrets de la Torah si tu n'es pas shomer Shabbat, si tu ne fais pas Shabbat.
La vraie définition, c'est les plus meurtriers, effectivement, les plus meurtriers.
Ben oui, puisque c'est ce que dit ici.
Qui apporte la mort.
Avec les secrets de la Torah falsifiés, ils ont amené la mort au monde. Et vous rendez compte?
C'est gigantesque ce texte-là. C'est gigantesque. Enfin, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on dit toujours, c'est ça qui est fabuleux avec le Zohar, quel que soit l'endroit où on s'arrête, à un moment donné, on dit, mais c'est toute l'histoire du monde qui est construite dans ce paragraphe. Combien de fois on le dit? Combien de fois on le dit?
Bien sûr.
Une fois de plus on le dit, ici.
Oui.
Et plus que jamais ici, plus que jamais.
Mais non, on continue. Vatipakarna et Ineshnehem. Dès qu'ils ont mangé, leurs yeux se sont ouverts. Évidemment, puisqu'ils ont vu l'invisible. Ça veut dire quoi, les yeux se sont ouverts? Ils ont vu l'invisible, ils ont commencé à voir et à comprendre tout ce qui est caché derrière la vitrine de ce monde, ce qu'on appelle les secrets de la Torah. Ça veut dire quoi, les yeux s'ouvrent? Et quoi, ils étaient aveugles avant? Non, mais avant, ils ne voyaient que l'extériorité du monde.
Voilà, c'est-à-dire que les yeux se sont ouverts sur la pnimiote des choses.
Sur l'intériorité des choses. Alors, regardez ce que dit Rabbi Chiya. Rabbi Chiya Amar. Dea itpakru le minda bishin de alma madeloyadu adashta. Regardez ce qu'ils ont vu. Regardez ce que dit Rabbi Chiya. L'intériorité des choses, mais ils ont vu la véritable intériorité des choses. Le mal qui se cache derrière la vitrine du monde. Regardez comme c'est fort, mais comme c'est fort. Je vous dis encore une fois, on n'a pas besoin. Jackie, on n'a pas besoin. Jackie. On n'a pas besoin de lire toutes les bêtises qu'on envoie aujourd'hui. Regardez ce qu'il dit. Des A, itpakru, leurs yeux se sont ouverts, les minda, et ils ont pris conscience, bishin, de tout le mal des alma qui est dans ce monde, ma de loyadu adashta, ce qu'ils ne connaissaient pas jusqu'avant. Parce qu'avant, ils disaient, mais nos dirigeants veulent notre bien, liberté, égalité, fraternité. Nos dirigeants veulent notre bien, tout ce qu'ils font, c'est pour nous. Et grâce à ça, leurs yeux se sont ouverts et ils ont pris conscience que derrière la vitrine se cachait une corruption, un mal inimaginable. Évidemment, le Zohar ne parle pas pour eux à leur époque, puisqu'ils étaient les deux seuls, entre parenthèses, être humain. Non, en vérité, même c'est faux, mais non, arrête, je dis une bêtise. Il y avait déjà des quantités de créatures qui existaient qui n'étaient pas des Bnei Adam, qui avaient une forme humaine, mais qui n'étaient pas des Bnei Adam. Bien sûr. Évidemment. Donc, ils ont pris conscience que derrière la vitrine du monde qui séduit les hommes se cache un mal inimaginable. Voilà ce qu'ils ont compris. Regarde ce qu'il dit le Matok. « Je n'ai pas croyé. Leurs yeux se sont ouverts. La da'at a ra'ot. Et ils ont pris conscience de tout le mal. Ve'averot et de toutes les fautes. Anim shachot. Qui proviennent mit ta'avat agouf. Du culte du corps. She'al yedeze. Et c'est comme ça mit dapkin baklipot. Que l'on tombe dans le monde du mal. Car ils ont pris conscience que finalement, derrière toute l'apparence, se cachait un monde de corruption, un monde de plaisir, un monde de débauche, un monde d'idolâtrie inimaginable, qui était soigneusement caché pour que personne ne le voie, et que la vitrine ne nous laisse pas voir ce qu'il y a derrière. Donc, ici, il y a quelque chose d'étonnant, Jackie, parce que d'un côté, on dit que en mangeant de l'arbre trop tôt, ils ont divulgué des secrets qui ont été falsifiés par les forces contraires. Mais d'un autre côté, on nous dit que grâce au fait qu'ils ont mangé...
Ils ont pris conscience de la réalité du monde.
Mais parce que quoi qu'il en soit, ils ont... Parce qu'ils ont atteint les secrets de la Torah. Donc qu'est-ce que ici Rashbi nous dévoile? Que la véritable étude des secrets de la Torah, c'est être capable de comprendre que le monde n'est qu'une vitrine derrière laquelle se cache un mal inimaginable qu'un jour ou l'autre il faudra détruire. Mais il a été le seul à le voir.
Mais c'est ce que je te dis.
Quand il y a eu cette réunion des Chachamim, cette réunion des maîtres, il est le seul à dire, arrêtez de parler en faveur de Rome, c'est la nation la plus corrompue qui existe sur Terre. Et les gens ne l'ont pas cru, même les maîtres de son époque ne l'ont pas cru. Il est le seul à l'avoir vu.
Si tu transposes ça au monde d'aujourd'hui, ça te fait peur par rapport à ce que tu entends dans le monde à Torah.
Mais Jackie... Il n'y a pas que le monde politique et laïque qui est corrompu. Tout le monde est corrompu. C'est-à-dire qu'il y a des gens bien partout, il y a des gens corrompus partout, y compris dans le monde de la Torah. Ne parlons pas dans les autres religions, alors là, c'est même pas la peine de le dire. Mais même chez nous, il y a une corruption inimaginable, même dans le monde de la Torah. Pourquoi ? Parce que le mal s'est infiltré partout, partout, partout.
Parce que la mort est partout.
La mort est partout. Et pas seulement la mort physique, la mort morale, la mort spirituelle. Et même dans le monde de la Torah, il y a une mort spirituelle. C'est nos maîtres qui le révèlent. Nos maîtres le révèlent, que la Torah peut être aussi une substance de mort pour ceux qui ne sont pas méritants. Alors, regardez, on continue. Kevan.
Mais là, on prend conscience en profondeur.
Alors, regardez, on continue, Jackie.
C'est tellement vrai. Parce qu'on le voit, on le vit. Quelque part, on a le mérite, si l'on peut dire, de vivre cette période où tout ça, ça sort presque de manière claire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est devenu très difficile à cacher, tout ça. C'est ça qui est.
Vous savez. J'ai un exemple très simple. Ça m'est déjà arrivé une fois ou deux, ou même plus que ça, que les gens me disent, bon, vous connaissez toutes mes positions sur tout ce qui se passe aujourd'hui, je ne vais pas en parler, etc. Bon, sur le vaccin, sur ci, sur ça, etc. Plus ça m'est arrivé que les gens me disent, ouais, mais parce que, bon, tu es influencé par tout ce que tu lis sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais pas du tout. Je me fous royalement de ce que les réseaux sociaux disent. Moi, toute ma connaissance, elle est fondée sur les secrets de la Torah. Et aujourd'hui, vraiment d'une manière miraculeuse, on voit un texte qui confirme tout ce que j'explique. J'ai pas besoin des réseaux sociaux pour dire ce que je dis. Tout est dans la Torah.
Tu l'avais déjà étudié ce passage-là ?
Comment ? Ben, pas celui-là, pas spécialement, mais d'autres, oui. Il y a d'autres différents endroits où le Zohar dit ça.
Tu vois celui-là comme il est incroyablement d'actualité ?
Mais il est d'une actualité absolument incroyable. Regardez, on continue encore une phrase ou deux. Kevan de Yadou, quand ils ont compris. Deit Pakrou, les Minda, que leurs yeux se sont ouverts et qu'ils ont pris conscience, biche, du mal qu'il y avait dans ce monde, Kedin, à ce moment-là, Yadou, ils ont pris conscience d'une autre chose, Kéroumi même, qu'ils sont nus, des Avdou, c'est-à-dire quoi, ils sont nus, ils ont compris qu'en mangeant de cet arbre-là, Avdou Zahara, il a un.
S'exposer eux-mêmes à ce genre de problème.
Voilà, ils sont nus, c'est-à-dire ils ne sont plus protégés. Des Avdou.
Ils étaient voilà. Complètement exposés à tout le mal qu'ils ont vu.
Exactement.
C'est ça qui les a effrayés, tu vois, ils se sont cachés, ils se sont dit c'est pas possible.
Absolument, d'accord. Des Avdou Zahara, d'Aver Rafé Alayou, ils ont perdu la lumière qui les protégeait. Regardez ce qu'il dit le Matok. Chez Avdou Zahara Elion, ils ont perdu la lumière d'en haut. Shaya Mechassa ou Magin Aleem qui les recouvrait et les protégeait. C'est-à-dire, dit dans un langage plus simple, s'ils avaient attendu la fin du Shabbat pour manger de cet arbre-là, ils auraient pu comprendre les secrets de la Torah et les transmettre tout en étant protégés d'une transmission vers des forces obscures. Mais comme ils se sont précipités.
Ça, c'était leur fameuse peau de lumière.
Voilà. Mais comme ils se sont précipités, leur compréhension des secrets de la Torah s'est diffusée dans des forces obscures et des forces négatives qui se sont accaparées le monde pour le diriger sans Dieu. Voilà ce qui s'est passé. Vous comprenez ? C'est quelque chose d'absolument incroyable. Absolument incroyable. Ça veut dire que c'est
comment
toujours... C'est pas nu forcément sur le sens physique, mais c'est nu dans le sens spirituel.
Leurs nouveaux habits, si je puis dire. Comment ça se fait que d'eux-mêmes, ayant pris conscience de ce qui s'est passé, ils n'ont pas cherché à se...
Mais parce qu'il fallait des habits qui les protègent, et il n'y a que Dieu qui pouvait leur donner ces habits-là. C'est pas des habits, c'est pas un jean, c'est un...
Je comprends bien que ça vole.
C'est des habits que seul Hachem peut leur donner pour les protéger.
Justement, comment ça se fait qu'ils n'ont pas cherché à réparer d'eux-mêmes cette chose ?
Parce qu'il n'y avait que Hachem qui pouvait protéger l'humanité. Il n'y avait que Hachem qui pouvait les protéger. Le peuple juif, il a traversé l'histoire grâce à qui ? Grâce à Hachem. C'est pas grâce à nous. Évidemment que c'est pas grâce à nous.
C'est-à-dire, on peut dire la chose suivante. Ils se sont rendus compte avec effroi de maintenant qu'ils n'avaient plus ces habits de lumière qui, il est protégé, parce que là, c'était, de, comment dirais-je, ça empêchait, c'était, ça empêchait justement ces avis-là, les clipons de se nourrir. Maintenant que ces avis n'existaient plus, ils sont pratiquement tombés dans le désespoir au fait qu'ils ont dit c'est plus possible, nous n'avons oui. plus les forces pour protéger.
Absolument.
C'est là qu'a dû intervenir Hachem lui-même. Finalement, nous, le peuple juif, on n'est pas protégé par nos propres moyens. On est protégé par les forces de la Torah, c'est tout.
Vous pensez que pendant la Shoah, il y avait encore un juif qui pensait que le peuple juif pourrait survivre et avec non. ce qui se passait. Et à un an près, si les Allemands avaient eu, comment on sait, les missiles qu'ils voulaient créer, là. Je ne me rappelle plus. Et à un an près, ils auraient pu détruire l'Amérique, ouais. ils auraient pu tout détruire et c'était fini. Il n'y avait plus de peuple juif. À un an près. Donc, de toute façon, sans l'intervention d'Hachem qui fait les habits, c'est-à-dire qui fait la protection, personne ne peut s'en sortir. Pourquoi toutes les grandes puissances, 1 milliard de fois plus puissantes qu'Israël, ont disparu? Pourquoi Israël, le plus petit peuple de la terre, est toujours là? Parce que les grandes puissances n'ont pas mérité la protection d'Hachem, et Israël, oui, jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est ça ce que la Torah nous dit, que c'est lui qui a fait les habits, c'est lui qui a protégé oui, Adam et Ève. Parce qu'on a la Torah, parce qu'on a quelques dizaines de vrais juifs parmi nous qui perpétuent la Torah de génération en génération. Je dis quelques dizaines parce qu'il n'y en a pas plus. Qui perpétuent la Torah de génération en génération, et c'est elle qui permet à Hachem de nous protéger.
Terrible règle du jeu.
Ah, c'est vraiment un texte absolument incroyable, un texte absolument magnifique.